Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangou, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le thème du forum de ce soir porte sur les conduites à tenir dans la prévention du COVID-19 auprès des enfants. Comment prévenir la maladie à coronavirus chez les enfants? Quelles sont les conduites à tenir par les parents, l'État, les partenaires et les partenaires au développement du Niger? Comment sensibiliser les enfants sur le COVID-19 et avec quel langage? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, j'ai invité Amir Ismaël, coordinateur de l'ONG Save Environnement. Rachida Bizo, avec nous au téléphone, elle est secrétaire permanente du cadre consultatif nigérien des enfants et des jeunes. Et nous avons également invité Sidiku Moussa de CONI du Niger, mais il n'a pas pu être avec nous. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce forum. Le premier cas de coronavirus a été officiellement déclaré le 19 mars passé au Niger. Diverses mesures ont été mises en œuvre, sans compter les campagnes d'information et de sensibilisation sur la maladie à coronavirus à l'endroit des populations nigériennes. Au sujet justement de la sensibilisation, nous nous intéressons ce soir à la façon de toucher la catégorie des enfants, cette frange innocente et vulnérable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je demande à chacun de nos invités de nous présenter brièvement les structures respectives qu'elles représentent. Je commence avec vous, Rachida Bizo, secrétaire permanent du cadre consultatif nigérien des enfants et des jeunes.
Merci bien, Monsieur Alassane. Donc, notre cadre est un cadre qui a été mis en place le 11 octobre 2011. Donc, ce cadre est soutenu par Plan International Niger, qui est encadré techniquement par la CONID. Le cadre existe dans respectivement 13 pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, à ce jour, nous avons 7 autres bureaux en dehors de celui de la région de Niamey, dont la présidente en exercice est Mohamed Aboubakar Yasmina. Oui, qui est aussi une jeune fille leader qui a eu à représenter le cadre à plusieurs rencontres.
Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la principale mission de ce cadre?
Donc, la principale mission de ce cadre, c'est que nous sommes là pour défendre les droits des jeunes et des enfants. Ce cadre a aussi pour principale mission de suivre la mise en œuvre des instruments internationaux que le Niger a eu à ratifier en ce qui concerne la protection de l'enfant. Donc nous avons fait comme cheval de bataille pour suivre, interpeller et aussi dénoncer les violations qui sont faites à l'encontre des droits de l'enfant et aussi comme objectif atteindre l'effectivité des droits des enfants au Niger.
Bien. Nous revenons en studio avec Amir Ismaël, qui est coordinateur, je le disais, de l'ONG Save Environment.
Je me présente Amir Ismaël Abdrahman, je suis coordinateur au sein de l'ONG Save Environment. Notre organisation est créé en septembre 2018, nous intervenons dans la protection de l'environnement et des personnes exposées aux risques et catastrophes naturelles. C'est donc à juste titre que, si on peut le dire, je suis là aujourd'hui pour un peu parler du COVID, de notre expérience et de notre contribution dans la lutte contre cette pandémie mondiale.
Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont engagés,
qui
ont quitté le terrain habituel souvent de leur activité pour s'impliquer dans cette lutte qui est commune à tous.
Tout à fait. En fait, nous sommes dans un cadre où maintenant les secteurs d'intervention n'ont plus autant d'importance comme dans le temps normal. Le monde entier est pris dans une crise sanitaire, donc c'est normal que tous les cadres, tous les leaders, les dirigeants se mettent sur le même pied, adoptent la même voie pour lutter contre ces fléaux.
Bien, nous rentrons alors dans le vif de notre sujet. Amir Ismaël, à votre avis, quels sont aujourd'hui les risques qu'encourent les enfants dans ce contexte de COVID-19?
Alors, à en croire les scientifiques et les autorités sanitaires, les enfants sont beaucoup moins exposés par rapport aux personnes âgées. C'est d'ailleurs sur ces cadres ou dans ce sens que nous nous sommes concentrés durant notre campagne de sensibilisation que nous avons menée en ligne. Nous appelons les enfants à se protéger parce que, en fait, parlant du COVID-19, il y a deux types de malades. Il y a ce qu'on appelle les malades asymptomatiques, c'est-à-dire c'est des malades qui sont porteurs du virus mais qui ne présentent pas de symptômes. Mais ces malades peuvent tout à fait transmettre le virus à quelqu'un d'autre. Donc le danger ici, le risque serait que ces enfants qui contractent ces virus le transmettent à leurs parents ou à des personnes âgées qui ne sont pas forcément de leur famille. Donc nous les appelons et aussi il faut retenir ou il faut préciser qu'ils sont les plus mobiles. Notre sensibilisation s'est concentrée à 90% sur les jeunes. Nous voudrions atteindre les jeunes. Le virus n'a pas autant d'effet sur les enfants comme sur les adultes. Mais malgré tout, nous faisons des enfants, tout comme des adultes, une priorité dans notre communication et notre sensibilisation.
Bien, nous allons revenir à vous, Amir, le temps de donner la parole à Rachida Bizo. Rachida, aujourd'hui, si on vous demandait d'énumérer les risques qu'encourent les enfants dans ce contexte de COVID-19,
moi, je dirais que les risques qu'encourent les enfants, ils sont multiples et multiformes. Pourquoi je dis cela? Parce que non seulement vous savez que dans ce contexte de pandémie, les écoles ont été fermées. Donc, du coup, ça agit beaucoup sur les enfants. Deuxièmement, vous savez que les parents qui sont chargés de s'occuper de ces enfants-là, pour la plupart, ils sont au boulot. Donc, du coup, ils laissent les enfants avec les femmes de ménage. Et troisièmement, les enfants qui sont dans la rue, les enfants mendiants. Voyez-vous? Donc, ces trois problèmes que je viens de vous énumérer, ça expose beaucoup plus, je pense, les enfants que parlant des adultes. Pourquoi? Parce que les enfants, l'interruption de l'école, ça provoque d'un autre côté une interruption ou bien un frein à leur épanouissement. Comment le virus peut impacter sur les enfants? À travers les femmes de ménage. C'est vrai que maintenant, il y en a beaucoup plus de parents qui elles ont demandé soit des congés ou d'autres qui leur boulot est
qui sont désormais à la maison, oui, avec les enfants.
Désormais à la maison, qui peuvent s'occuper des enfants. Mais aussi, la responsabilité de ces parents-là, c'est d'empêcher que les enfants-là sortent pour aller jouer avec d'autres enfants. Voyez-vous? Parce que lorsqu'ils vont aller jouer avec d'autres enfants, ça les expose encore plus. Les parents doivent, dans ce contexte-là, informer les enfants, ne pas les faire paniquer et leur apprendre les gestes préventifs dont se laver régulièrement les mains, pourquoi pas.
Justement, vous anticipez la question que j'allais justement vous poser, c'est justement comment sensibiliser les enfants sur le COVID et avec quel langage? Est-ce que comment on le fait avec les adultes ou...
Non, pas du tout. Les enfants, vous savez, dans ce contexte-là, ils sont beaucoup plus vulnérables parce que non seulement ils ne peuvent pas rencontrer leurs amis, ils ne peuvent pas jouer comme ils le veulent. Donc, du coup, c'est un frein à leur épanouissement. Ce qui fait qu'ils sont d'un côté, disons, perturbés par la situation actuelle. Donc, il faudrait que les parents puissent utiliser un langage simple, un langage rassurant, qui peut donner confiance à ces enfants-là et qui peuvent les motiver à ce qu'ils sachent que rester à la maison, oui, mais on a aussi d'autres activités qu'on peut faire avec les parents qui peuvent faire en sorte que les enfants se sentent plus en sécurité, que les enfants ne soient pas du tout le temps, confinés dans l'idée où je vais peut-être mourir, comme les adultes, nous sommes en train de paniquer.
Oui.
Peut-être quand je sortirai, je ne sais pas qui est-ce que je vais rencontrer, ou dans notre contexte actuel, vous savez que nous, les Africains, quand on se rencontre, on ne veut pas parfois s'empêcher de se saluer. de se donner la main. Donc, du coup, vous, il faudrait que ces enfants-là sachent que même si vous ne pouvez pas sortir, vous pouvez tout de même regarder la télé, faire des exercices avec les parents, jouer aussi parfois avec les parents pour qu'ils se sentent en sécurité, et qu'eux aussi disent, par exemple, au téléphone, ils peuvent avoir les amis au téléphone. Ah, nous, nos parents, ils nous ont dit ça, ça, ça. Eux aussi, ils peuvent transmettre la bonne information, mais à leur langage, à leur manière.
Bien, nous revenons en studio, Rachida. Alors, Amir Ismaël, on a vu toutes sortes de messages de sensibilisation, en tout cas à l'endroit de tout le monde. Et voilà. Est-ce que vous pensez que ces messages sont souvent adaptés aux enfants, à la jeune génération, aux enfants? Les messages qu'on voit sur le net, qu'on entend à la radio, qu'on voit à la télévision. Voilà, quel est votre point de vue à ce sujet?
Personnellement, je pense que le message porte à très peu d'impact au niveau des enfants. Pourquoi? Par le simple fait que d'abord, les enfants n'écoutent pas forcément la radio. Ils regardent la télévision, mais pas des informations, mais plutôt leurs dessins animés et autres. Donc, ce qui fait en sorte que, en fait, l'objectif visé dans la communication ou dans la transmission des messages
rate la cible enfant.
Voilà, ça rate. Et donc, la responsabilité maintenant revient à qui? C'est la question à se poser. Et bien, tout naturellement, elle revient aux parents, qui sont les premiers responsables des enfants. Et les parents également doivent trouver une stratégie, une méthodologie de communication. C'est-à-dire ne pas employer le même langage que nos autorités font, ou bien que nous-mêmes nous faisons sur les réseaux sociaux ou autres. Parce que c'est des enfants.
Qui consiste à dramatiser.
Voilà, dramatiser, voire même animer une sorte de psychose, etc. Et c'est pas vraiment idéal en le faisant auprès des enfants également. Donc là, par exemple, la stratégie que peuvent adopter les parents, déjà nous sommes ce que mademoiselle Rachida disait tout à l'heure, qu'ils peuvent rester à la maison. C'est une très bonne idée, mais pour combien de foyers, pour combien de familles? C'est pas toutes les familles qui ont les moyens, ou je sais pas, la télévision pour garder un enfant chez eux. Et leur faire regarder la télévision, leur faire jouer, etc. Il y a des familles qui n'ont même pas de télévision. Peut-être à la rigueur, ils n'ont qu'une radio. Donc là, ils ne peuvent en aucun cas voir quasi impossible de retenir l'enfant à la maison. L'enfant peut sortir sans même que les parents s'en rendent compte. Donc là, peut-être, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que le parent soit beaucoup plus exigeant dans le fait d'adopter les gestes barrières, les mesures préventives. En rentrant à la maison, écoute, en rentrant à la maison, tu laves tes mains, tu te désinfectes, des choses comme ça. Après, tu pars, tu rentres dans le salon, tu joues avec tes frères, des choses comme ça. Et il faut que le parent soit beaucoup plus strict. Ça, c'est le type de communication que nous devrions adopter pour nos enfants, pour nos petits frères et autres, je pense, qui sont beaucoup moins âgés que nous.
Rachida Bizot, est-ce que vous avez aussi peut-être fait la remarque, je ne sais pas, par rapport aux messages qui circulent sur la sensibilisation à la maladie, est-ce que ces messages sont compréhensibles et accessibles aux enfants?
Oui, par rapport aux messages qui circulent sur les réseaux sociaux, disons à la télé, parfois dans les radios. La tranche enfant, comme il a eu à le dire, c'est vrai, c'est pas les familles qui ont la télé et qui ont l'Internet. Mais quand même, vous avez vu, peut-être eu à le constater aussi, même ceux qui n'ont pas la télé, et ceux dont ils parlent, qui ne pouvaient pas retenir comme ça se doit les enfants à la maison. Maintenant, quand vous leur demandez quelle est l'actualité de maintenant, ils vous disent COVID-19.
Parce qu'il y a ces informations qui circulent des bouches à oreilles.
Voilà. Les informations. C'est pourquoi j'ai dit que maintenant, ça engage la responsabilité des parents.
Comme Amir vient de souligner ça également.
Voilà. Les informations qui circulent de bouche à oreille, parfois, ce n'est pas du tout la bonne information. Mais ça, la responsabilité revient aux parents de s'informer sur les gestes barrières, de s'informer sur la maladie, pour pouvoir aussi informer leurs enfants et pouvoir attirer leur attention. C'est vrai que dans ce contexte, il faut être beaucoup plus exigeant avec les enfants, mais il faut aussi employer un langage beaucoup plus doux, beaucoup plus compréhensif pour que ces enfants-là puissent rester à la maison. Parce que même quand vous allez dire à un enfant de porter une bavette, pour sortir, vous savez que ça ne va pas être du tout, ça va pas être du tout facile, surtout quand il va jouer avec ses amis.
Ouais.
Les amis, soit les amis vont tirer dessus pour la lever, ou bien ils vont même essayer de lutter pour la lever,
pour
et ils vont la lever.
Ouais.
Et ils vont la lever, voyez-vous. Mm. Donc, dans ce contexte-là, vraiment, je pense que c'est plus la responsabilité des parents que nous sommes en train d'engager. C'est plus l'attention des parents que nous sommes en train de tirer pour que ces parents-là puissent prendre les responsabilités en main, pour que ces parents-là puissent mieux expliquer cela aux enfants. Parce que les enfants, ils comprennent.
Oui.
Ils comprennent très vite. Mm. Surtout lorsque vous leur dites coronavirus, ils se disent, je vais aller me laver les mains.
Alors, donc, Rachida, je vais vous proposer à tous de suivre un petit dialogue entre enfants sur le COVID-19, un élément que le studio Kalongo a réalisé pour s'adresser justement aux enfants. Nous allons l'écouter, après on fait un petit commentaire.
Mamie, pourquoi l'école est fermée? Moi, j'aimerais voir mes amis.
Moi aussi, j'aimerais voir mes amis. Mais mes parents m'ont expliqué qu'il y a une grave maladie qui est arrivée, qui tue les gens.
C'est quoi cette maladie-là?
Qui tue les gens, moi, j'ai peur.
La maladie, ça s'appelle coronavirus.
Il n'y a pas de remède, mamie?
Non, mais on peut la prévenir.
Mais on fait comment?
Mon père m'a dit qu'il faut toujours laver les mains à l'eau et au savon et utiliser du gel hydroalcoolique. Pour tousser ou éternuer, il faut le faire dans le creux du coude. Mettre une distance d'au moins 1 mètre entre toi et les autres.
Je comprends, mamie. À l'école, nous sommes 85 dans la classe.
Tu es intelligente, voilà. Il faut rester à la maison pour éviter les attroupements. Ce n'est pas fini. Si tu utilises des mouchoirs, il ne faut pas les jeter n'importe où. Il faut les mettre dans une poubelle.
Mamie, j'espère que c'est la fin des points.
Non, ce n'est pas fini. Quand un papy ou une mamie ou un tonton arrive, il ne faut pas courir l'embrasser. Il faut le saluer à distance.
Il n'y a plus d'embrassade maintenant.
Donc, il n'y a plus de football maintenant.
Là, c'est grave.
Farid, à la fin de la pandémie, vous allez jouer au football.
Hey, ce n'est pas facile.
Oui, Farid, ce n'est pas facile. Mais je pense que tous les enfants doivent être informés et sensibiliser. Moi, je suis contente d'être informée.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Allô, Rachida?
Allô, oui, je suis là.
Vous avez bien entendu maintenant?
Oui, j'ai très bien entendu.
Alors, qu'en pensez-vous de cet élément et qu'est-ce qui retient particulièrement votre attention dans les messages passés par ces enfants?
J'ai beaucoup retenu surtout l'explication des gestes barrières, comment est-ce que l'enfant l'expliquait tellement bien à son ami ou à son petit frère.
Oui.
Mais aussi ce que j'ai retenu, c'est que le parent a eu le réflexe de leur dire que c'est juste pour un temps court, que cela ne va pas perdurer et qu'après cette pandémie, ils auront encore le temps de jouer avec leurs amis. C'est un élément vraiment très important que tous les enfants doivent écouter, que ça soit en français ou en langue, pour qu'ils puissent, avoir un niveau de conscience aussi à ce niveau et dans cette tranche de la place.
Je veux dire le fait que les parents leur aient expliqué que c'est des mesures temporaires, que voilà, c'est pour un temps, c'est pas pour toute la vie. C'est important d'insister là-dessus.
C'est très important parce que l'enfant, ça va le motiver à respecter ces gestes barrières-là. Parce qu'il va se dire que ça ne va pas durer, donc c'est juste pour un temps limite et que je peux encore supporter un moment pour que, avant que ça passe.
Mm.
Mais là, ce qui attire plus, ce qui attire plus mon attention, c'est au niveau des enfants qui sont dans la vie, des enfants mendiants.
Ouais.
Comment faire passer ce message-là à ces enfants-là? Parce que pour la plupart, voyez-vous, c'est même les parents avec lesquels ils sont qui n'y croient pas.
Mm.
Voyez-vous.
Oui.
Donc pour cette tranche-là, et c'est eux qui sont les plus exposés parce que, voyez-vous, c'est eux qui prennent les pièces de main à main. Ce sont ces enfants-là qui courent vers les gens quand ils les voient.
Mm.
Et ces enfants-là, ils peuvent aller jusqu'à prendre la main d'un inconnu juste pour lui dire que j'ai besoin de temps.
Ouais.
Bien. Il est vraiment important que ce message qui est passé à travers ces enfants et leurs parents, ce message soit un message qui sera véhiculé aussi à travers tout le pays pour que d'autres enfants puissent aussi écouter et entendre, qui n'ont pas la chance de discuter avec leurs parents comme ces enfants-là ont eu à le faire.
Bien. Alors, Ismaël, Amir, quel est votre point de vue par rapport à cet élément qu'on a écouté, cet échange des enfants qui s'adressent à leurs leur frères enfants aussi?
D'abord, on peut dire, comme remarque, que le message a très bien passé. On sent que les personnes qui se sont chargées de faire transmettre ce message ou d'expliquer à ces enfants voilà le danger auquel nous sommes exposés, bien que ce danger soit temporaire, voilà et les mesures préventives qu'ils peuvent faire afin de se protéger eux et de protéger les autres. Donc c'est vraiment approuvé. Si on peut appliquer cela au niveau de tous les enfants, au niveau de tout un chacun, je pense que très vite on va finir avec cette pandémie sur notre territoire. Mais on peut cependant noter quelque chose, c'est le fait que les grands frères actuellement dans le pays, les grands frères, les parents n'y croient plus, comme l'a dit mademoiselle Rachida. Oui. Donc ça va encore plus compliquer les choses. Nous avons constaté des émeutes ces derniers jours au sein même de Niamey, des révoltes qui sont en train d'être faites par des individus, toujours à cause du confinement ou du couvre-feu voilà, et autres. Donc là, c'est vraiment des choses qui vont nous ramener en arrière encore, parce que c'est des mesures qui ont été prises dans l'espoir d'endiguer la maladie, la propagation de la maladie sur le territoire. Et là, les gens en ont ras-le-bol, ils sont fatigués, ou je ne sais pas c'est quelle motivation en tout cas. Mais une chose est sûre, c'est que ça va certainement impacter les enfants. C'est pas un bon exemple que nous donnons aux enfants. Nous demandons à nos enfants, à nos petits frères, de respecter les gestes barrières. Et ces mêmes jeunes, ces mêmes petits frères nous voient encore sortir de la rue brûler des pneus, être en confrontation directe avec des policiers, des gendarmes. Donc vous voyez qu'il y aura forcément un impact sur ces enfants.
Ouais. Alors nous allons rentrer maintenant dans les activités que vous faites au sujet justement du Covid. Concrètement, quelles sont vos activités de sensibilisation sur le Covid? Quels sont les moyens que vous utilisez et quelles sont vos cibles?
Alors, merci beaucoup Mamadou. Je pense que ça va être très facile à expliquer. En fait, l'objectif principal de notre campagne de sensibilisation contre le Covid, c'est avant tout d'inviter ou d'inciter les gens à accepter le fait que le virus est bel et bien sur notre territoire et qu'il ne s'agit en aucun cas d'une manipulation politique ou d'une sorte de, je sais pas, de mise en scène politique. Parce que très malheureusement, les quelques contacts que nous avons sur le terrain, c'est le constat qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils nous ont produit comme rapport, c'est que les gens n'y croient pas, honnêtement. Quand on croise une personne dans la rue ou dans un quartier, qu'on lui dit, écoute, le virus, il est bel et bien là, il dit, ok, le virus est bel et bien là, alors qu'est-ce que vous nous apportez comme aide? Vous nous demandez de nous laver les mains, de porter des bavettes, d'utiliser des solutions hydroalcooliques, de mettre une distance de 1 mètre, etc., tout ça. Alors vous, concrètement, qu'est-ce que vous nous apportez? Donc vous voyez un peu, ça, au tout début, ça comment dirais-je, a impacté notre campagne de sensibilisation. Alors, le second point, ce qu'on peut évoquer comme second point, c'est que nous voudrions atteindre le maximum de gens. Nous voudrions appeler notre communauté, les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux et les gens, nos bénévoles, nos volontaires, nos sympathisants, etc., où qu'ils soient, et leurs familles. Nous voudrions qu'ils sachent que nous sommes aussi impliqués dans cette lutte contre le coronavirus, bien étant une organisation qui d'habitude intervient dans le secteur de l'environnement et de la biodiversité, mais quand même nous nous sommes investis avec les moyens que nous avons, les informations dont nous disposons, pour en tant que partenaire de l'État, organisation, nous comptons ou nous sommes en train d'apporter notre pierre à l'édifice pour...
Alors, est-ce que vous faites du porte-à-porte pour sensibiliser ou bien vous êtes plutôt réseaux sociaux?
Alors, nous avons réparti la campagne en deux étapes. La première étape consiste à faire une communication sur les réseaux sociaux, atteindre le maximum de gens, les jeunes en particulier, parce que c'est eux qui utilisent les plateformes Facebook, Twitter, etc. La deuxième étape consisterait à aller sur le terrain directement à travers des contacts que nous avons dans les quartiers, parce que nous avons des bénévoles, Dieu merci, dans les quartiers, et à qui d'ailleurs je saisis l'occasion pour les remercier pour tout l'effort qu'ils sont en train de faire malgré le risque. Donc ça, c'est la seconde étape. Nous faisons du porte à porte. Nous demandons aux gens, écoutez, le virus là, il est bel et bien là, et que en fait, en le faisant, vous vous protégez vous-même, et ensuite vous protégez les autres.
Au-delà de la sensibilisation, est-ce que vous avez aussi des dispositifs à distribuer à certaines personnes ou vous n'êtes pas engagé pour d'autres raisons sur ce champ?
Alors, très malheureusement, la campagne que nous avons lancée, nous n'avons pas bénéficié d'un appui financier, si c'est en dehors d'un appui technique du ministère de la Santé et de quelques partenaires. Mais un appui financier, on n'en a pas. C'est à fonds propres que nous avons acheté quelques matériels, et nous avons par après lancé une sorte d'appel aux dons de communautés ou des gens. Donc ces dons, une fois qu'ils seront réunis, on va acheter des matériels, des savons et autres qu'on va distribuer à ces mêmes personnes qui ont donné ces contributions et à leurs familles également. Mais pour le moment, on n'est pas encore là.
Bisous Rachida. Alors dites-nous, quelles sont vos activités concernant le COVID-19?
Les activités que nous avons eu à réaliser dans le cadre de la prévention ou de l'information concernant le COVID-19, nous avons, au départ, nous étions plutôt réseaux sociaux.
Comme Amir Ismaël.
Oui, on communiquait sur les réseaux sociaux, on attirait l'attention des parents sur les conduites à adopter, sur comment est-ce qu'il faut se comporter avec les enfants et autres. Mais par la suite, nous avons aussi approché des partenaires pour voir comment est-ce que nous allons agir, quelle action est-ce que nous pouvons entreprendre pour pouvoir aller vers ces enfants, les enfants vulnérables qui sont certains de la rue, pour pouvoir faire une action à leur égard, qu'ils sachent que dans cette période de pandémie, même eux, ils ne sont pas oubliés dans le cadre des actions que nous sommes en train de mener. Et aussi, le comportement que nous avons décidé de mener c'est que lorsque nous-mêmes, en tant que membres d'une association, lorsque nous-mêmes nous sortons ou que nous sommes obligés d'aller quelque part, on adopte les gestes préventifs, à savoir bavette, parfois des gants, pour que les gens puissent être attirés par le comportement que nous adoptons. Oui. À travers ce comportement-là, ils peuvent y avoir un niveau de conscience pour qu'ils se disent...
Et s'inspirer de ce que vous faites.
Voilà, et s'assurer de ce que nous faisons pour se dire que, voilà, ma santé, ça vaut de l'or et que moi, je devrais m'occuper de ma santé et de pas ce que les gens disent. Parce que les gens disent beaucoup de choses, mais en fin de compte, nous sommes les seuls à savoir ce qu'il faut pour nous-mêmes. Donc, il faudrait que nous-mêmes nous protégions, que nous protégions nos enfants, parce que c'est la jeune génération, c'est la génération future, pour que ces enfants-là puissent grandir dans un environnement sain et que cette pandémie-là ne laisse pas des séquelles sur leur mémoire, que ça ne laisse pas des séquelles après son départ sur les enfants.
Et alors, Rachida, au tout début, vous avez commencé à évoquer le fait qu'il y a certains enfants, notamment les enfants mendiants, qui souvent prennent le risque. Alors, on sait que parmi toujours les enfants à risque, on en trouve qui sont plus vulnérables que d'autres, hein, ça c'est une vérité.
Oui.
Notamment les enfants de la rue ou de la rue, les enfants de parents démunis, les enfants avec handicap ou les enfants talibés aussi, les enfants talibés, etc. Est-ce que aujourd'hui, le constat qui se dégage, est-ce que ces derniers ne sont pas oubliés par cette grande mobilisation contre le COVID-19?
Alors, récemment, j'étais en train de regarder les infos sur la télé. Donc, j'ai vu qu'un élément s'est intéressé aux enfants qui sont dans la rue, aux enfants talibés sur Télé-Sahel. Donc, je pense que c'est vraiment un grand pas, parce que si les médias commencent à s'intéresser, comme nous, à cette tranche vulnérable de la population, je pense qu'il y aura des partenaires, eux aussi, qui vont se soucier de cette tranche-là et de pouvoir faire quelque chose à leur égard. Comme je l'ai dit, nous avons approché nos partenaires et nous avons grand espoir que eux, ils peuvent faire quelque chose pour ces enfants-là. Parce que vous avez des enfants talibés qui, parfois, ils sont dans une petite chambre à 30. Voyez-vous. Donc, comment est-ce qu'il faut prendre les mesures pour que ces enfants-là puissent se protéger et protéger les autres aussi avec lesquels ils sont.
Qu'est-ce qu'il est nécessaire justement de faire en faveur de ces enfants en matière de sensibilisation ou d'appui même d'outils de prévention, Rachida?
Voilà. Donc, en matière de sensibilisation, il faudrait d'abord qu'ils arrivent à prendre conscience de l'existence de la maladie, qu'il faut aussi se protéger et protéger les autres. Et par la suite, ce qu'il faut faire, c'est que je pense que ces enfants-là doivent être dotés de gel hydroalcoolique ou bien de savon pour qu'ils puissent se laver les mains quand ils vont sortir de la rue, pour que quand on leur tend de l'argent ou quelque chose comme ça, qu'ils aient des gants ou un truc comme ça à leur disposition pour qu'ils puissent prendre ce qu'on va leur donner. Et vous savez que c'est les enfants qui, pour la plupart, surtout les enfants talibés, qui ne s'approchent pas trop des gens, ils se tiennent à une distance vraiment raisonnable pour pouvoir demander de l'argent. Mmh. Donc, pour le respect de ces gestes-là, quand ils seront mieux informés, je pense que ça serait plus facile pour eux de pouvoir s'adapter face à la situation. Mais il faudrait vraiment que nous fassions des actions à leur égard pour qu'eux aussi, ils soient protégés, pour qu'ils sachent que nous ne les oublions pas, nous tous, et que nous sommes en train de vrai pour que tous les enfants aient les mêmes droits et que tous les enfants soient protégés face à cette maladie.
Alors, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Je reviens en studio. Amir Ismaël, coordinateur de l'ONG Save Environnement. Comment aujourd'hui prévenir efficacement la maladie à coronavirus auprès des enfants?
Alors, je pense qu'on a fait le tour, mais pour résumer, je reviens toujours sur ce que j'avais dit tout à l'heure, que les premiers responsables sont les parents. Il faut que les parents prennent les responsabilités en main. Je pense que même dans le premier message à la nation du président de la République, il avait bien mentionné cet aspect, que la responsabilité revienne aux parents. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est dans la communication. La communication, c'est-à-dire il faut qu'on apprenne à informer les jeunes, les enfants, autant pour moi, que ce soit dans la rue quand on les voit faire certaines choses. Nous qui sommes observateurs, qui ne sommes pas leurs parents biologiques, il faut qu'on sache les conseiller, il faut qu'on sache leur dire écoutez, arrêtez ceci ou arrêtez cela. Nous sommes dans une situation où tel enfant n'est plus vraiment l'enfant unique de l'autre, mais un enfant doit être conseillé par tout un chacun. En tout cas, moi, c'est la logique dans laquelle je suis, parce que je me dis que un seul porteur de ce virus peut au moins infecter 3 ou 4 personnes. Et c'est ce que la communauté scientifique également avait affirmé.
Alors, quelles sont les autres responsabilités reviennent à qui? On avait évoqué le fait qu'il y a certaines familles qui sont en tout cas démunies, qui, même si elles sont conscientes des mesures à adopter, souvent faute de moyens, en tout cas déjà de subsistance, elles ne peuvent pas se s'offrir le luxe d'avoir en tout cas un certain nombre d'outils pour se prévenir.
Effectivement, en fait, dans cette lutte contre le COVID-19, il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués, que ce soit dans la communication, que ce soit dans les activités terrain, dans la sensibilisation et même et bien d'autres. Et parmi ces acteurs, il y a les organisations qui ont comme spécialité la protection des enfants et des jeunes, comme le cas de l'UNICEF, qui d'ailleurs je profite de l'occasion pour féliciter l'UNICEF et le CNJ, le Conseil national de la jeunesse, qui très récemment ont mis une plateforme, un site web en ligne appelé Mouriem Matassa. Donc les auditeurs ou auditrices peuvent jeter un coup d'œil pour s'informer sur la situation du COVID au Niger en cliquant le www.mouriemmatassa.org. Donc c'est une excellente plateforme également de communication et de sensibilisation qui peut servir beaucoup, en tout cas dans cette lutte.
Rachida Bizot, nous y sommes avec vous. Alors, pour vous, comment aujourd'hui prévenir efficacement la maladie à coronavirus auprès des enfants? Et quelles sont les conduites à tenir par les parents vis-à-vis de leurs enfants et les conduites aussi ou le rôle attendu de l'État?
Ok, merci bien. Par rapport aux conduites à tenir, il faut vraiment encourager les gens à respecter les gestes barrières, parce que c'est seulement à travers cela que nous pouvons nous prévenir, parce que vous savez très bien que cette maladie n'a toujours pas de vaccin. aussi, il y va de la responsabilité de l'État. Parlant de la vulnérabilité des familles, parce que, voyez-vous, plusieurs activités ont été suspendues, plusieurs personnes sont, disons, au chômage en chômage technique.
Oui.
Donc, il y va de la responsabilité de l'État aussi de soutenir ces couches vulnérables-là. C'est vrai que le président de la République a eu à le dire dans son message à la nation qu'il y aura des ventes à prix modérées, qu'il y aura des distributions de vivres gratuites, mais il faudrait que cette cible-là puisse être mieux ciblée afin de répondre à leurs attentes. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre à la disposition de cette couche-là les vivres nécessaires et qu'en fin de compte, ceux qui sont réellement concernés ne soient pas touchés. Voyez-vous. Et aussi, comme il a eu à le dire, ça va de notre responsabilité à nous tous. Et en tant qu'organisation de jeunes, nous sommes obligés, et parce que nous sommes obligés d'aller vers ces gens-là, d'attirer l'attention des parents pour que ces mesures puissent mieux être respectées. Et comme il a eu à le dire, les jeunes doivent prendre conscience de l'urgence de la situation qui est face à nous. Et pour cela, c'est vraiment très important que les gens aillent sur le site qu'il a eu à le dire. L'UNICEF et le CNJ ont eu à mettre en place ce site-là qui est vulgarisé par des jeunes volontaires qui sensibilisent les jeunes à aller prendre la bonne information, à aller donner un avis qui sera pris en compte par qui de droit. Donc je pense que www.mouriermatassa.org est vraiment un site qui est à visiter. Les gens sont dans une logique où, tant que moi, je n'ai pas vu de mes yeux ou je n'ai pas entendu directement un proche qui est atteint de cette maladie-là, je n'y crois pas. Moi, je me dis qu'on n'a pas besoin de voir quelqu'un ou bien d'entendre quelqu'un qui, lui, il est atteint de la maladie pour y croire. Mais pourquoi je dis ça? Parce que je ne veux pas avoir la preuve que, bon, nécessairement qu'un de mes proches soit atteint pour que je sois convaincu, on ne le souhaite pas. Mais moi je me dis que là où se trouve la frustration des jeunes par rapport à cela, c'est que il y a déjà eu un mois que pour la plupart ils sont en chômage, comme j'ai eu à le dire, et c'est vraiment pas du tout facile avec l'arrivée du mois de Ramadan, que les gens n'ont pas les moyens. Parce que vous savez que c'est aussi un mois qui nécessite des grandes dépenses chez nous autres.
Oui.
Donc les gens sont vraiment dans une situation où il y a seulement, comme je peux le dire, si je peux le dire, il y a seulement la vulnérabilité au niveau des finances, des finances, la vulnérabilité des ménages que cette pandémie a eu à accentuer. Donc du coup, vraiment, il faudrait que les mesures, comme je l'ai dit, prises pour affronter cette situation, pour surmonter cette situation, puissent être adaptées, que ces mesures puissent répondre à l'attente vraiment des concernés.
Bien,
je dis que la cible doit être atteinte pour que les gens puissent au moins s'apaiser et qu'ils puissent enfin adopter des mesures aussi tout aussi raisonnables que acceptable.
Bien. Voilà, pour terminer, Rachida, quel appel ou quel conseil souhaitez-vous faire passer au sujet de la prévention de cette maladie COVID-19 auprès des enfants?
Le message que je tiens à lancer, c'est qu'il faudrait, il y a une urgence vis-à-vis de la situation. Et dans cette urgence-là, il faudrait vraiment que les parents créent les conditions pour que ces enfants-là puissent s'épanouir, même en étant à la maison, pour que la psychosociale ne s'étend pas sur les enfants. J'en appelle aussi aux partenaires techniques et financiers pour que ces partenaires-là puissent plus accorder une oreille attentive à cette combien vulnérable de la population, pour que ces organisations puissent nous soutenir et aider ces enfants-là pour qu'ils puissent eux aussi se mettre à l'abri de cette maladie, parce qu'on ne le souhaite pas qu'un de ces enfants-là soit atteint, parce que vous savez que les enfants sont, comme pour les enfants talibés surtout, ils sont en contact permanent avec leurs amis et leurs autres amis talibés. Donc du coup, ça serait vraiment une catastrophe sociale. Donc je pense que c'est vraiment important, voire primordial, que que cette frange de la population soit protégée au mieux, que ces enfants-là puissent être mis à l'abri de cette maladie.
Merci. Amir, est-ce que tu as un message à lancer?
Alors, un très court message.
Oui.
Un appel que j'aimerais faire à l'endroit des parents, à l'endroit de la communauté musulmane et chrétienne, à l'endroit des autorités également.
Mmh.
Et plus précisément aux jeunes, aux enfants, c'est un appel à être beaucoup plus patient. Et j'appelle également tous les leaders, qu'ils soient religieux ou autres, à s'investir encore plus dans la communication et aussi savoir comment communiquer. C'est très important. C'est important également que je le mentionne. Dans ce genre de situation, c'est toujours important de faire appel ou de se référer à la religion. Qu'est-ce que la religion préconise? Qu'est-ce que la religion enseigne dans ce genre de situation? C'est très important, en dehors du cadre scientifique, bien entendu. Et ça peut tout aussi aider à contenir cette maladie ou à la gérer en mieux.
Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme du forum d'aujourd'hui qui portait sur le thème « Les conduites à tenir dans la prévention du COVID-19 auprès des enfants ». Voilà, nous avons vu avec nos invités en tout cas tous les contours concernant cette maladie et notamment la façon la plus efficace de prévenir cette maladie auprès des enfants. La responsabilité en tout cas des parents est revenue à plusieurs reprises. Cela a été souligné par nos deux invités, à savoir que ces parents doivent en tout cas être les premiers responsables des enfants, les premiers à savoir mieux informer et mieux sensibiliser les enfants, leurs enfants, et notamment aussi la contribution des médias et tous les autres partenaires. Chacun doit savoir informer et sensibiliser les enfants du danger et de la façon de se prévenir contre cette maladie et encourager l'adoption des gestes barrières comme cela a été en tout cas le cas dans beaucoup de médias. Voilà, le suivi rigoureux aussi des enfants par leurs parents, c'est quelque chose aussi qui a été souligné. Aux partenaires d'avoir un œil regardant en apportant les appuis nécessaires pour justement prévenir cette maladie auprès des enfants. Merci à tous. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission. Le volet technique a été assuré par Abdoulaye Bounga. Nous étions en compagnie de nos invités Amir Ismaël, coordinateur de l'ONG Save Environnement, et Rachida Bizo, secrétaire permanent du cadre consultatif nigérien des enfants et des jeunes. Merci à tous. Bonsoir.